auditeurs de Radio Courtoisie, très heureux de vous retrouver pour cette émission qui a été pré-enregistrée. Nous avions reçu en mai dernier François Couchet pour le chapitre court, dense mais très complet consacré à la Grande Guerre dans la nouvelle histoire de France d'Éric Anceau, dirigé par Éric Anceau et publié aux éditions Passé Composé. Ce sujet de la Grande Guerre est riche et passionnant, il nous concerne tous, pour la plupart, en tout cas, car nous avons des aïeux qui se sont battus avec les fameux poilus. François Couchet, lors de cette première émission, avait évoqué l'importance de la Grande Guerre dans notre histoire et dans notre mémoire, ainsi que les changements et les révolutions qu'elle avait provoquées. Une révolution militaire avec un bouleversement des règles tactiques du combat et de la manœuvre, une révolution aussi des matériels, une révolution par les tranchées qui figent le front jusqu'à la rupture en 1918, en juillet 1918, rupture provoquée par l'usure et l'effondrement du moral allemand et bien sûr la percée de leur front grâce aux armes nouvelles, le binôme char-avion, déjà en 1918. François Couchet avait insisté sur les immenses souffrances endurées par les soldats et les ressources morales impressionnantes dont ils avaient fait preuve pour tenir. Il y a un certain nombre de sujets que évoqués dans ce chapitre de François Couchet, dans cette nouvelle histoire de France, donc ce chapitre consacré à la Grande Guerre, un certain nombre de sujets, nous n'avions pas eu le temps de les aborder, un certain nombre de remarques, de questions des auditeurs que nous n'avions pas non plus eu le temps de lire. Donc nous allons lire, bien sûr, ces questions d'auditeurs, nous allons les proposer à notre invité et nous allons aborder, bien sûr, les autres sujets, un certain nombre d'autres sujets tels que François Couchet les explicite dans ce chapitre. Et tout ça, bien sûr, pour notre plus grand plaisir, car ce chapitre et ces sujets sont passionnants. Nous aborderons aussi le rôle, avec un certain nombre d'exemples, des chefs, des grands chefs, des chefs connus, mais aussi de ceux qui sont méconnus. Nous aborderons la révolution économique provoquée par cette Grande Guerre, les évolutions politiques avec des éclairages sur un certain nombre d'épisodes, parmi eux les taxis de la Marne, Verdun naturellement. J'espère que nous aurons le temps d'aborder avec François Couchet la meilleure manière de visiter ce champ de bataille, ce champ de bataille de Verdun. Nous évoquerons Clémenceau et la fin de la guerre. C'est donc avec grand plaisir, chers auditeurs, que nous recevons à nouveau François Couchet. François Couchet, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup. Enfin, oui, bonsoir. C'est avec grand plaisir que nous vous recevons dans le studio pour évoquer ce chapitre passionnant que vous consacrez donc à la Grande Guerre. Je vous présente à nouveau aux auditeurs de Radio Courtoisie qui commencent à bien vous connaître. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Lorraine Metz. Vous êtes un spécialiste de l'expérience combattante, plus particulièrement au 19e et au 20e siècle, un spécialiste de la mémoire des guerres et de la captivité de la guerre. Vous avez d'ailleurs, à travers vos activités de recherche, participé à de nombreuses réalisations muséographiques. Vous êtes par exemple le président du conseil d'orientation scientifique du mémorial de Verdun. Vous êtes aussi membre du comité scientifique d'un musée qui est méconnu mais très intéressant, qui est le musée de la guerre de 1870 et de l'annexion qui se trouve à Gravelotte.
Un très très bel outil pédagogique, malheureusement un petit peu sous-employé, mais un très bel outil.
Gravelotte, ça reste une victoire quand même, ou c'est discuté. Il y a l'expression, il pleut comme à Gravelotte.
Ça tombe comme à Gravelotte.
Oui. Exact, ça tombe comme à Gravelotte.
C'est une victoire tactique française, mais dont les Français ne se rendent pratiquement pas compte et qui ne savent pas exploiter. Donc c'est une petite victoire tactique, mais une défaite stratégique.
Une défaite stratégique.
Parce que les Français s'enferment quand même dans Metz.
Malgré Gravelotte.
La pusillanimité
des Bazaines.
De Bazaines.
Ouais. Qui commandait à Gravelotte?
Je n'ai plus la moindre idée. Il y a trois corps d'armée qui sont engagés, mais j'avoue que je n'ai plus peut-être le nom des généraux.
En tout cas, c'est un musée à visiter. Il y a le champ de bataille est explicite.
Alors il y a quelques panneautages, mais là encore c'est assez peu visible. Il y a surtout des nécropoles, des fosses communes qui sont bien marquées dans le paysage par des monuments en pierre.
Un peu comme à Wörth-Froschwiller.
Oui.
C'est un champ de bataille aussi avec beaucoup de beaucoup de souvenirs.
Oui, oui.
C'est assez marquant. Sous un champ de bataille assez réduit, Wörth-Froschwiller.
Oui.
Mais nous sommes là ce soir pour évoquer François Cochet, donc la Première Guerre mondiale. Je vais repréciser quelques ouvrages. On a écrit de nombreux consacrés à cette période et aussi à d'autres périodes. Je cite par exemple Les soldats inconnus de la Grande Guerre chez Sauteca. Nous évoquerons d'ailleurs un certain nombre d'inconnus à titre d'exemple durant cette émission. Vous avez écrit aussi Histoire de l'armée française 1914-1918 avec Rémy Porte aussi, que les auditeurs connaissent bien, qui est venu souvent, un de vos amis en effet. Vous avez beaucoup partagé, travaillé avec lui.
Oui, oui.
Et puis, je l'avais mentionné parce que je trouve que c'est intéressant, particulièrement intéressant. Petit guide pour mener votre propre enquête et retrouver vos ancêtres poilus avec Erwan Le Gall. Vous avez écrit cela et publié chez Pierre de Taillac.
Oui, oui, en 2022.
C'est récent.
Erwan Le Gall est un jeune collègue qui a beaucoup travaillé sur les sources numériques. Et nous avons essayé de. Et sur les journaux de marche et d'opération aussi. Nous avons essayé de présenter toutes les sources disponibles, effectivement, qu'elles soient traditionnelles, c'est-à-dire archivistiques, ou qu'elles soient plus nouvelles, numériques, pour essayer qu'une famille puisse retrouver, effectivement, le parcours de l'ancêtre qui a combattu dans la Grande Guerre.
C'est un guide explicatif, comment procéder ?
Sur les différentes sources, oui, voilà.
Donc ça nous concerne. Ça nous concerne tous.
Voilà, c'est une coproduction du musée de Meaux, de la Grande Guerre et du mémorial de Verdun.
Et vous savez, si grâce à ce guide, il y a un certain nombre de personnes qui ont retrouvé leur ancêtre poilu, tu as d'ailleurs
pas eu
de témoignage.
Je n'ai pas eu de tel retour aussi précis. J'aimerais bien, c'est pour cela que nous avions fait ce guide.
Oui. Et puis, citons aussi Français en guerre, de 1870 à nos jours, chez Perrin.
Oui.
Dans un domaine plus récent, dictionnaire de la guerre d'Indochine.
Oui, avec Yvan Cadeau.
Avec Yvan Cadeau, que nous connaissons bien aussi à ce micro, Rémy Porte.
Et Rémy Porte aussi.
Sur cette guerre d'Indochine.
Et 90 auteurs.
Et puis, Pierre Mesmer, plus récent.
Non, plus ancien.
Dans l'histoire, enfin, je dirais plus récent dans l'histoire.
Ah oui, dans l'histoire.
Mais plus ancien dans la publication.
Oui.
Un livre sur Pierre Mesmer au croisement du militaire et du colonial et du politique. Et enfin, un ouvrage tout récent, pour lequel nous aurons plaisir de vous accueillir d'ailleurs. C'est celui que vous consacrez au général Catroux. Le général Catroux est militaire bien diplomate.
Oui, tout à fait.
C'est donc chez Perrin.
Chez Perrin, Pierre de Taillac.
Perrin, Pierre de Taillac. Donc tout récent. Hein.
Oui, de novembre 2025.
2025, donc il y a quelques mois de cela.
Un personnage assez fascinant.
François Cochet, je vous propose que nous reprenions donc. Le thème de cette Grande Guerre, tel que vous l'illustrez dans cette nouvelle Histoire de France dirigée par Éric Anceau, vous aviez évoqué les terribles souffrances des soldats, des poilus, sur le terrain durant cette guerre. Ça vous vaut d'avoir une expression particulière, la mort de loin. Et ça, c'est une caractéristique de cette guerre, c'est que la plupart des tués, quand même, rappelons, 1 300 000, je crois, ou 400 000.
Oui, 1 000 000, oui, presque 500 000.
1 500 000 tués.
On a réévalué à la hausse, on est à plus d'1 400 000, oui.
Avec un taux de perte dans l'infanterie, qui, vous l'aviez évoqué, qui était faramineux.
De l'ordre en moyenne de 22%, mais qui monte à 29% chez les officiers subalternes, alors que les pertes moyennes nationales sont à 16%.
Mais la manière.
Par rapport aux mobilisés, pardon.
Alors, pouvez-vous évoquer la mort de loin, ce que vous voulez dire en la matière ?
cette grande guerre de 1914-1918 est effectivement une guerre d'hommes, parce que jamais on a mobilisé autant d'hommes sur les champs de bataille. D'ailleurs, de moins en moins d'hommes en première ligne et de plus en plus d'hommes en deuxième, voire troisième ligne. Mais surtout, c'est une guerre de matériel. C'est une guerre de matériel, c'est une guerre d'artillerie. On le sait dès 1914, on mesure cela dès les premiers engagements de 1914, c'est une guerre qui va s'alourdir, je dirais, à tous les sens du terme, en termes d'artillerie, parce que à partir du moment où on crée le système tranché, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le système tranché, qui voit l'enterrement, sans jeu de mots, des soldats dans les tranchées, eh bien il faut pouvoir disposer de pièces de plus en plus lourdes en termes de puissance de destruction, et surtout à tir court, permettant d'aller chercher l'ennemi enterré. Et donc, ça devient de plus en plus une guerre d'artillerie au pluriel, puisque les artilleries se diversifient, s'alourdissent, se diversifient, et se diversifient en fonction des objectifs à atteindre, des missions en quelque sorte confiées aux artilleurs. Et donc, c'est une guerre qui s'opère de loin, et la mort est donnée de loin, parce que même un canon de 75, sa trajectoire maximum, c'est à peu près 9 km, 9000 mètres. Bon, souvent, c'est plus réduit, c'est 7-8000 mètres. Mais par exemple, les pièces de plus en plus lourdes tirent facilement à 10, 15, voire 20 km à la fin de la guerre. Ça signifie qu'un obus qui est envoyé par une équipe d'artilleurs, eh bien, l'équipe d'artilleurs ne voit pas le résultat de son tir et on est tué sans avoir combattu forcément, hein, pas forcément en combattant véritablement. Et donc, cette guerre de matériel, cette guerre d'artilleurs qui ont l'impression de faire un travail, ils n'ont pas forcément l'impression de tuer l'ennemi, ils ne le voient pas, cet ennemi tué, mais ils savent à peu près quand même les résultats de leur tir. Et c'est important à comprendre aussi en ce qui concerne, je dirais, le sentiment de culpabilisation à l'égard de l'ennemi tué. Parce que chez les artilleurs, il ne peut pas y avoir de culpabilisation parce qu'ils ne voient pas le résultat de leur tir. Ce n'est pas une mort droit dans les yeux, ce n'est pas une mort comme dans un combat rapproché. C'est une mort de loin, effectivement. Et il faut rappeler quand même que 70% des tués de la Grande Guerre, dans tous les camps, hein, sont le fait d'éclats d'obus. Et ça, c'est un changement majeur par rapport à la guerre de 70, par exemple, puisque en 70-71, au contraire, 70% des tués avaient été tués par balles de fusil. Hein. Et là, on a une inversion complète et on a une mort effectivement donnée de loin et subie de loin. C'est-à-dire que vous êtes tué dans votre tranchée sans avoir vu l'ennemi. Et c'est une caractéristique anthropologique qui est importante dans la Grande Guerre.
Et dans les pertes françaises, François Cochet, on parle beaucoup des massacres, hein, des boucheries suite aux offensives, et notamment la dernière grande offensive d'entre elles qui va provoquer des changements importants, qui est le chemin des dames voulu par Nivelles. Et puis avant, il y a l'offensive de la Somme, il y a celle d'Artois, il y a ce qui s'est passé aussi à Verdun. C'est 70% de pertes dues à l'artillerie. C'est valable aussi pour les tués de ces offensives. On imagine en fait des vagues de soldats qui sortent des tranchées, baïonnettes au canon, qui parcourent 500 mètres sur un terrain battu par les mitrailleuses, battu par l'artillerie, et puis qui arrivent à la première ligne, souvent la prennent, et puis après ça s'arrête là. Les tués ne sont pas tués par les balles de mitrailleuses qui viennent des tranchées, mais sont, même dans ces offensives, sont des victimes de l'artillerie.
Ah oui, absolument. Il faut se rendre compte de la densité de feux d'artillerie qui est absolument phénoménale.
Oui.
À bien des égards, la Grande Guerre, c'est le summum de ce qu'on a pu faire dans l'emploi de l'artillerie. On ne retrouvera plus jamais une telle densité de feu. Éventuellement durant de courtes périodes de la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, d'une manière générale, la densité de feu est énorme. On considère que... Alors c'est une appréciation qui vaut ce qu'elle vaut, parce que c'est plus une impression. Mais compte tenu du champ de bataille, par exemple, de Verdun, qui est assez réduit, hein, qui fait une quinzaine de kilomètres d'ouest en est, et une dizaine de kilomètres à peine de profondeur, on estime que de février 1916 à décembre 1916, on a quelque chose comme 60 millions d'obus qui ont été tirés. 60 millions d'obus sur ce front aussi restreint, En gros, ça vous fait un obus de gros calibre, sans compter les obus de petit calibre, ça vous fait un obus de gros calibre au mètre carré. Ce sont des densités de feu qu'on ne retrouvera plus jamais. Et donc, pour répondre plus directement à votre question, oui, effectivement, même dans les grandes offensives, en gros, les Alliés lancent une grande offensive par an, hein, 15, 16 et 17. La proportion de tués par éclat d'obus est effectivement aux alentours de 70%, malgré le feu très meurtrier des mitrailleuses et de la mousqueterie, des feux d'infanterie de l'adversaire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les soldats montant à l'assaut sont souvent tués avant même d'avoir vu l'ennemi, c'est-à-dire avant même d'être à portée d'armes d'infanterie. Et moi, j'estime que, si vous voulez, la proportion entre ce que j'appelle les grands coups, hein, c'est-à-dire les grandes offensives, donc 1915, Artois, Champagne, Wavre, 1916, la Somme, et puis la contre-offensive de Verdun, et 1917, le chemin des Dames, ce que j'ai appelé les hyper-batailles, j'estime, mais là encore, ce sont des estimations, ces grandes offensives sont responsables d'à peu près 60% des morts et ce que j'appelle la quotidienneté de la guerre, l'entretien de la guerre, c'est-à-dire être tué sans combattre véritablement, en subissant le feu de l'ennemi, c'est de l'ordre d'à peu près de
40%. 60%, c'est très important.
Ah oui, c'est énorme.
C'est très important. Oui.
D'où l'expression que j'ai voulu créer d'hyper-bataille, parce que ces hyper-batailles, effectivement, englobent un investissement humain, matériel et en temps, parce que ce soit la Somme ou Verdun, ce sont des batailles à chaque fois de plusieurs mois. Le chemin des Dames aussi, c'est un peu plus court, mais ça commence le 16 avril et sur la partie orientale des monts de Champagne, ça se termine qu'au mois de juin. Donc effectivement, vous avez la durée qui explique ces hyper-batailles, et puis vous avez l'investissement industriel, c'est-à-dire qu'il faut alimenter ces hyper-batailles à coup de trains complets de munitions et de matériaux de toutes sortes, de matériel, pardon, de toutes sortes.
14-18, cette révolution militaire, c'est aussi donc une révolution du matériel lourd, l'artillerie, les avions et les chars. Et vous allez nous expliquer dans l'importance du matériel, donc l'importance de l'économie capable de fabriquer du matériel supérieur, mais aussi en plus grand nombre, et de les alimenter en munitions, ce qui va nous amener effectivement à parler de l'économie, hein, qui est essentielle, une des clés de la victoire, d'ailleurs.
Oui, c'est le front intérieur est déterminant pour comprendre la durée de la guerre, quelque part. Mais pour comprendre aussi l'effondrement allemand de 1918.
Alors nous allons pas l'évoquer tout de suite, mais nous allons bien sûr l'évoquer dans cette émission, parce qu'en France on est un peu complexé, hein, par rapport à la force de l'économie allemande, hein, et notamment de l'industrie allemande de nos jours. Et là, nous avons dans l'histoire une période décisive où justement l'économie française a su s'organiser et se montrer supérieure. Alors récemment, il y a de multiples raisons, vous allez nous expliquer, mais a su se montrer supérieure et contribuer elle aussi, d'une manière décisive à la victoire. Je voudrais revenir sur l'artillerie, si vous le voulez bien. Mm-hmm. Donc, la portée des canons s'agrandit considérablement. Vous dites, en gros, entre 7 et 20 km. Donc, les artilleurs tirent à l'aveugle. Enfin, à l'aveugle, ils ne tirent pas n'importe comment.
Pas,
ils ne voient pas, oui. Enfin,
on va pas c'est dire pour qu'un... ça que c'est une... les artilleurs sont une arme savante.
François Cochet, on dit que dans l'artillerie, qu'un coup de but est un coup de chance. Hein. Mais.
On dit un coup trop long, un coup trop court, oui, et un coup au but.
Ça, trop long, trop court au but. Mais comment font-ils pour... Parce que c'est quand même relativement précis, puisqu'ils tirent à 7-20 km sur les tranchées adverses qui ne sont qu'à 1 km, et puis que lorsque l'offensive se déploie, eh bien, on tire entre les deux tranchées. Donc c'est quand même précis. Mais comment font-ils? Ils ne voient pas, et ça veut dire qu'ils ont développé des systèmes d'observation à distance qui vont communiquer les réglages. Comment ça se passe?
Alors, c'est tout le talent de l'artilleur. Je rappelle que l'officier d'artillerie est une arme. L'artillerie est une arme savante. Donc, les officiers sont formés à Polytechnique, comme les sapeurs, alors que les armes de mêlée sont formées à Saint-Cyr. Les fantassins et les cavaliers sont formés à Saint-Cyr. À l'époque, l'artilleur, aujourd'hui encore, mais aujourd'hui il y a le recours au numérique et à l'ordinateur qui est beaucoup plus grand. À l'époque, les artilleurs sont des mathématiciens. C'est-à-dire que vous avez des calculs d'abac. Vous avez des calculs en fonction de la force du vent, de la direction du vent, etc. Vous avez aussi des calculs en fonction de l'humidité de l'air, parce que la trajectoire de l'obus n'est pas la même dans un air sec et dans un air humide. Donc c'est vraiment une arme savante. Et puis, alors, ce qui se développe extraordinairement rapidement, c'est bien entendu l'aviation d'observation. Oui. On sait que dès 1914, l'inflexion de l'armée von Kluck au moment du renversement de la bataille de la Marne, qui va donner la bataille de la Marne, a été observée certes par des cavaliers au sol, mais plutôt par des aviateurs qui ont vu ce mouvement d'inflexion. Et au cours de la guerre, cette observation d'artillerie, en fait, qui est l'aviation la plus importante, faut le rappeler, beaucoup plus que les AS. Les AS sont là pour protéger les avions d'observation. Et ils font des progrès absolument colossaux. Et à la fin de la guerre, en 1918, en quelques heures, je dis bien en quelques heures, une photo aérienne verticale est transformée en canevas de tir en environ 4 heures en 1918. C'est-à-dire qu'on passe de la photo aérienne en indicateur de tir en quelques heures. Et ça, c'est quelque chose qui se passe dans tous les camps et qui est un effet remarquable de la modernisation aussi de l'aéronautique militaire.
Je vous propose d'évoquer maintenant, comme vous le faites très bien dans ce chapitre consacré à la Grande Guerre, François Gauchet. Je rappelle que ce chapitre, vous l'avez publié dans cette nouvelle Histoire de France aux éditions Passées et Composées. Et c'est une œuvre collective dirigée par Éric Anceau. Vous évoquez aussi dans ce chapitre, c'est le titre du paragraphe, la partie de ce chapitre, « La nation doit beaucoup à des chefs très connus, mais aussi à des chefs méconnus et de modestes héros discrets, simples soldats ou cadres de contact ». Alors vous proposez un certain nombre de noms dans les trois cas. Je vous propose, si vous voulez, chef très connu, chef méconnu de tous les domaines, et puis héros discrets, humbles, de choisir ce que vous voudriez partager avec les auditeurs de Radio Courtoisie.
Alors, on peut prendre des exemples entre très connus et moins connus.
Oui.
Prenons le front de Verdun.
Ceux qui vous sont chers, ceux que vous voulez vraiment mettre en avant.
Oui, mais il faut expliquer pourquoi ils sont chers.
Bien sûr.
si vous prenez le front de Verdun de 1916, bien entendu, les figures qui reviennent constamment, c'est Philippe Pétain et c'est Robert Nivelle. Je rappelle que Robert Nivelle a commandé plus longtemps la 2e armée que Philippe Pétain. Mais, certes, Philippe Pétain prend les choses en main à partir du 25 février et donne des ordres effectivement déterminants. Il réorganise complètement la 2e armée. Nivelle prétend inventer une méthode métronomique pour reconquérir le terrain, la fameuse méthode de Verdun, 100 mètres toutes les 3 minutes de progression précédée par le barrage d'artillerie.
Ça fait quand même c'est vraiment un artilleur. Hein.
Ça fait quand même du 2 km/h et sur un terrain complètement bouleversé, c'est complètement irréaliste.
Oui.
Mais on cite quand même rarement Castelnau. Or Castelnau, c'est lui qui prend les premières mesures avant même l'arrivée de Philippe Pétain. Et c'est lui qui organise véritablement la défense de Verdun. Et puis, on ne cite pas assez souvent le colonel, à l'époque il est colonel, de Barescu, qui est le chef d'état-major de Pétain. Et c'est le chef d'état-major, c'est Barescu qui fait l'essentiel du boulot, si je puis dire. Hein ? Donc voilà deux exemples de gens un peu connus, Castelnau bien entendu et Barescu, mais qui ne sont pas suffisamment connus par rapport au rôle réel qu'ils ont joué.
Et pardonnez-moi, puisque vous évoquez le personnage de Castelnau qui a eu quand même un rôle déterminant en 1914, notamment avec la bataille autour de Nancy du Grand Couronné.
Oui. Il l'a fâché définitivement avec Foch. Puisque
son fils, vous l'avez rappelé d'ailleurs.
Et aux yeux de Foch, Castelnau a replié trop rapidement.
Et puis vous soulignez le rôle déterminant qu'il a eu dans les tout premiers jours, en effet, de Verdun.
Oui.
Et puis par la suite aussi. Certains disent on a été très injuste, la République était très injuste avec le général de Castelnau.
Promouvant pas maréchal.
C'est ça.
Qu'en pensez-vous ? Donnant pas la dignité de maréchal.
Qu'en pensez-vous ? Ça revient régulièrement dans l'actualité.
Ça revient régulièrement. Alors, Castelnau, d'une part, il y a ses opinions religieuses qui le desservent, mais surtout, il a quand même des ennemis assez sévères. Et notamment celui qui fut son subordonné en 14 et qui est devenu son supérieur en 1918, qui est Ferdinand Foch, qui déploie une véritable haine maintenant à l'égard de Castelnau. Et puis, bon, on a beau jeu de dire que Castelnau n'a pas commandé en chef non plus. Il a commandé une armée, mais il n'a pas commandé en chef.
Oui, mais d'autres maréchaux qui n'ont pas commandé
absolument.
En chef.
Et puis, l'argumentaire de Foch, mais aussi de Pétain en 1918-19, c'est de dire, mais il y a déjà assez de maréchaux, on arrête là. Mais c'est une manière, effectivement, de court-circuiter, si je puis dire, Castelnau. Son attitude en 1914 le dessert incontestablement. Hein. Où il lui a été reproché d'avoir replié un peu trop rapidement ses troupes sur le Grand Couronné. Peu importe, l'essentiel n'est pas là, l'essentiel est le travail qu'il a fait. Je voudrais citer aussi un autre inconnu célèbre qui mérite beaucoup et qui doit beaucoup. C'est le général Edmond Buat.
Oui.
Qui est simple colonel en 1914. Alors, simple colonel, mais déjà au cabinet d'Alexandre Millerand, hein, ministre de la guerre, donc un rôle important, et qui, en 1918, finit major général des armées. Donc, une progression spectaculaire et un rôle tout à fait considérable, puisque c'est lui qui, finalement, réussit, alors qu'il militait en faveur de cette idée depuis 1916, qui réussit en 1918 à créer la réserve générale d'artillerie. Voilà quelqu'un dont on ne parle pas assez fréquemment, mais qui joue un rôle considérable.
Pourquoi est-ce considérable cette réserve générale d'artillerie ?
Parce que Edmond Buat crée donc une réserve disponible immédiatement, une réserve d'artillerie lourde disponible immédiatement, parce que motorisée ou montée sur train, qui peut être roquée facilement d'un point à l'autre du front. Donc en cas de pépin, en cas de coup dur, on peut faire intervenir cette réserve générale d'artillerie sur les points sensibles, sur les points attaqués. Mmh. Et puis moi, ceux que j'aime beaucoup, plus encore que ceux dont je viens de parler, ce sont les quelques chefs de contact. Parce que ce sont eux qui sont vraiment sur le terrain, ce sont eux qui mènent leurs troupes au combat. Voilà, ce sont des lieutenants, ce sont des sous-lieutenants qui doivent entraîner leurs hommes et qui font... La résistance, en fait, générale de la troupe. Alors, il y a trois personnages, alors mis à part Maurice Genevoix, parce que Maurice Genevoix est vraiment l'archétype de ce sous-lieutenant, enfin, puis lieutenant d'infanterie extrêmement courageux, extrêmement compétent aussi sur le terrain, qui sait exploiter le terrain, Genevoix, et aimé de ses hommes. Mais il y a trois personnages qui me fascinent, moi, sur le front de Verdun, que je connais le moins mal. C'est d'une part le lieutenant, puis capitaine de réserve Charles Delvert, dont nous allons rééditer pour la troisième fois les carnets d'un fantassin au mémorial de Verdun. Delvert est l'archétype de la méritocratie républicaine, hein, fils de modeste ouvrier en chambre, normalien supérieur. Donc, lieutenant de réserve à une époque où les normaliens supérieurs sont obligés de suivre la préparation militaire supérieure. Et Delvert participe à toute la guerre et joue un rôle considérable dans la défense d'un petit point retranché qui s'appelle R1, qui se trouve à l'ouest du fort de Vaux. Et Delvert, avec sa compagnie, il monte à 170 hommes à R1, il redescend avec 9 hommes intacts. Et pendant 8 jours, il va résister à 3 bataillons allemands.
C'est au début de la bataille de Verdun ?
Non, c'est juin. C'est le moment où les Allemands vont s'emparer du fort de Vaux. Voilà. Donc, effectivement, Charles Delvert, c'est un beau parcours. Il reprendra ensuite son métier d'enseignement à Louis le Grand. Il finira chef de bataillon. Et en 2013, le 4e bataillon de Saint-Cyr-Coëtquidan, le bataillon des réservistes, ce qu'on appelle aujourd'hui les cadets, a pris le nom de baptême de Charles Delvert.
Voilà, ah, c'est un bel hommage, en effet. Pardonnez-moi, ces carnets sont intéressants ?
Ah oui, très intéressants. C'est un des plus beaux témoignages de guerre, qui, à mon avis, avec Maurice Genevoix, bien sûr. Autre personnage dont on pourrait parler, parce que lui aussi réserviste, c'est l'aspirant Buffet. L'aspirant Buffet est sous les ordres du commandant Reynal dans le fort de Vaux, toujours en juin 1916. Et Reynal, ne pouvant plus communiquer avec l'arrière, envoie l'aspirant Buffet rendre compte de la situation sur le fort de Vaux. Et non seulement l'aspirant Buffet réussit sa mission, rend compte, mais revient au fort de Vaux alors qu'il n'y était pas obligé, va repartir et va revenir deux fois, alors que le fort est quasiment encerclé. Donc voilà aussi un parcours modeste, parce que Buffet reprendra son métier aussi après la guerre sans problème, ne sera décoré de la Légion d'honneur que bien après. Ah bah oui, bien sûr.
Et c'est quoi, s'il était trop discret ?
Parce que effectivement sur Vaux, le commandant Reynal a attiré à lui tous les honneurs. Et puis un troisième sous-lieutenant que j'aime bien citer aussi, parce que lui aussi réserviste. Il ne faut pas oublier que dans les tranchées, il y a davantage de réservistes passé 1916 que de sous-lieutenants ou de lieutenants d'active. C'est le sous-lieutenant Dupuis qui organise et qui anime la défense du fort de Souville. Or, le fort de Souville, donc c'est le dernier point le plus avancé atteint par les Allemands fin juin 1916. Et c'est un simple sous-lieutenant d'infanterie de réserve, Dupuis, qui anime en grande partie cette résistance du fort de Souville. Et voilà quelques portraits.
Souville serait tombé, Verdun tombé.
Alors, on ne peut pas dire ça aussi mécaniquement, mais disons que Souville était quand même une des dernières clés de défense.
Une dernière clé, mais que serait-il passé si Souville était tombé, quoi, après, on arrivait au-dessus de Verdun, non ? Quand on regarde les cartes...
Souville, on est au-dessus de Verdun.
On est au-dessus de Verdun, ouais, c'est la dernière...
Dernier point clé.
C'est le dernier point, c'est un point clé.
Ce qui aurait pu se passer, mais bon, en effet,
sur le chronique, c'est...
Voilà quelques parcours qui méritent d'être... d'être relevés, ils sont connus des spécialistes, mais effectivement, le grand public ne connaît pas ce genre de personnes qui a tant fait pourtant pour eux.
Oui, on peut mieux les découvrir, en effet, en allant sur place, nous vous interrogerons à la fin de cette émission, François Gauchet, sur comment visiter Verdun. Et il y a deux, trois personnes que je voudrais évoquer avec vous, avant de rebondir sur ces deux, trois personnes que vous citez dans ce chapitre. J'aimerais vous interroger, vous l'avez comme déjà un peu répondu, sur les meilleurs écrits de la guerre. Que faut-il lire, d'après vous ?
Alors, que faut-il lire ?
À part vous lire sur l'histoire, mais parlons de ceux qui ont écrit, qui ont vécu et qui ont écrit ce qu'ils ont vécu.
D'abord, je dirais qu'il faut lire le plus possible sur la Grande Guerre. Il faut lire le plus possible des matériaux le moins possible transformés. C'est-à-dire que
comme la cuisine, hein.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Un bon produit fait une bonne cuisine.
C'est ça.
Effectivement. C'est-à-dire que je me méfie beaucoup des lettres de poilu, parce que dans une lettre de poilu, le soldat, quel que soit son grade, fait jouer ce que j'appelle le principe de rassurance. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire à sa famille, notamment si c'est à la femme aimée, on ne va pas dire la totale vérité. On le dira peut-être à des amis. On le dira à un proche, surtout si c'est un homme, mais les lettres de poilu, pour moi, ne sont pas un matériau très, très fiable. Les récits, sont moyennement crédibles. Moi, je n'ai pas, un sens de la crédibilité très grand d'un Barbus ou d'un Dorgelès. En revanche, les matériaux bruts, les journaux, les carnets de guerre, non modifiés après la guerre, voilà quelques pistes.
Vous pensez auxquelles
Je pense à Maurice Genevoix, toujours et encore. Oui. Parce que Maurice Genevoix a intitulé son témoignage, il l'a intitulé « Récit ». Mais en fait, c'est un remarquable document historique. Parce que c'est l'honnêteté intellectuelle de Genevoix qui est derrière. Il a simplement donné des noms d'emprunt à ses soldats pour ne pas alerter trop les familles. Mais c'est un remarquable document historique. Je pense encore et toujours à Charles Delvert. Les carnets d'un fantassin sont un document remarquable qui a été complété au fur et à mesure des écrits de Delvert après la guerre, mais qui ont été rédigés à partir de notes manuscrites prises quotidiennement. Mmh. On peut citer aussi, bien entendu, dans un autre style, ce qu'a écrit Louis Barthas, le tonnelier socialiste, simple soldat, et c'est un témoignage intéressant parce que émanant d'un simple soldat, ils ont été plutôt rares jusqu'aux années 1975-80, mais avec une relecture effectivement assez antimilitariste de l'après-guerre. Mmh. Voilà. Mais il y a des tonnes et des tonnes de témoignages intéressants, mais à la condition, encore une fois, qu'ils soient le moins revu et corrigé après la guerre. L'historien est toujours attaché aux documents bruts, le plus brut possible.
Oui. Peut-on les mettre en regard avec l'œuvre de Junger, sa trilogie?
Bien sûr, oui.
On est sur la même qualité, le même intérêt.
Oui, oui. Et on est plutôt proche de Genevoix, je dirais, puisque là, il y a une réelle qualité littéraire en plus.
Oui. Oui, Junger. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Genevoix et Junger
ont combattu quasiment
face de l'autre, quasiment. Oui, c'était pas à Verdun, mais en Argonne.
En Argonne, oui.
En Argonne, oui.
Et aux Éparges.
Oui, aux Éparges, c'est ça. Je cherchais, je cherchais le don. Et alors, donc, Barbus et Dorgelès, non? Ah bah, c'est trop romancé. Qu'est-ce que vous leur reprochez par rapport au...
D'une part, Barbus a été assez peu de temps au front quand même, à peu près 2 mois réellement au front. Et puis, il est déjà très connu lorsqu'il va au front. Et donc, bien qu'il soit simple soldat, il est traité comme un notable. Il est reçu à la table des officiers, etc. Barbus est à mes yeux ce que j'appelle, et ce n'est pas méchant de ma part, c'est une éponge. C'est-à-dire que Barbus s'inspire d'anecdotes qu'on lui rapporte, qu'il n'a pas forcément vérifiées réellement, et qu'il retranscrit.
Et Dorgelès
Dorgelès, c'est un peu la même chose à mes yeux.
Un peu pareil.
Ouais. Ouais. Mais bon.
Mais il y a deux, trois personnes que vous évoquez dans votre chapitre, j'aimerais vous interroger sur eux. Et il y a tout d'abord le général Barrès, organisateur de l'aviation, et Charles-Marie Duval, créateur de la division aérienne en 1918. Parce que lors de notre premier entretien, vous avez évoqué bien sûr les armes nouvelles, l'emploi de ces armes nouvelles comme décisives. Vous avez parlé, on a évoqué l'artillerie, les chars naturellement en 18, et puis l'aviation, dont vous avez dit que c'est la première fois que l'aviation française, par son utilisation en masse, va contribuer aussi à briser les offensives allemandes.
En 1918,
incontestablement. Voilà. Je voudrais que vous nous en disiez un peu plus, et c'est l'occasion d'évoquer, en effet, le général Barrès. Je ne sais pas s'il est parent avec l'écrivain.
Non, parce qu'il y a Caner.
Et Caner, donc ce n'est pas le même.
Non, pas du tout.
Et Charles-Marie Duval, leur rôle, et puis qu'est-ce que ça
Déjà, on peut replacer ce que j'appellerais la militarisation de l'aéronautique. C'est-à-dire que l'aéronautique, c'est un sport. En 1912-13, c'est un sport, et ce sont les civils, et ce sont les publications sportives qui popularisent l'aéronautique. Il y a un grand festival d'aviation en 1912 à Reims, qui est un peu un des berceaux de l'aviation. Et 1912, c'est aussi le moment où l'armée crée un brevet d'aéronautique militaire. Donc la France est très en pointe dans ce registre de l'aviation. Contrairement à ce qu'on dit, parce qu'on cite toujours la phrase plus ou moins apocryphe de Foch disant l'aviation, c'est bien pour le sport, mais c'est faux, parce que l'aéronautique militaire est déjà assez développée en France en 1914. Mais qu'est-ce qu'on a comme avion? On a des Blériot 11 qui volent à 80 km/h, qui sont des outils de toile, de bois et un tout petit peu de métal, qui ne sont pas armés, et qui volent à 800 mètres, 1000 mètres d'altitude. Vous prenez l'aviation de 1918. D'une part, elle s'est diversifiée, elle s'est spécialisée, c'est-à-dire que vous avez l'aviation d'observation, l'aviation de chasse et l'aviation de bombardement. Et puis, les appareils n'ont plus rien à voir. Dans la chasse, le SPAD 13 vole à presque 200 km/h, est armé de deux mitrailleuses synchronisées, etc., etc. Bon, alors, dans cette évolution globale, effectivement, Barrès et Duval jouent un rôle important, chacun dans leur registre. Parce que Barrès, lui, il croit à l'aviation de bombardement. Et il est capturé, il va s'évader, il revient, il reprend son service et il cherche à développer cette aviation de bombardement. Mais il y a des rivalités corporatives au sein de l'aéronautique militaire. Parce que certains ne croient pas du tout à l'aviation de bombardement. Et Duval, lui, croit à l'aviation de chasse, c'est-à-dire balayer le ciel des appareils ennemis. Et surtout, la chasse, comme on le disait tout à l'heure, a pour vocation principale, pardon, de protéger l'aviation d'observation. L'aviation d'observation, c'est la seule qui compte, notamment pour les artilleurs. C'est elle qui permet d'assurer les tirs des artilleurs. Et donc, on a, malgré ces rivalités corporatives, comme souvent au sein de l'armée ou dans d'autres métiers, on a effectivement un développement considérable de l'aviation de bombardement, qui va faire des raids sur l'Allemagne en 16, 17, 18, mais surtout de l'aviation de chasse, qui voit ses missions se développer, se diversifier aussi. C'est-à-dire qu'il s'agit de nettoyer le ciel, d'empêcher l'adversaire pardon, de venir au-dessus de nos lignes, mais aussi de plus en plus, c'est ce qui se passe en 1918, et c'est à ce titre que Duval joue un rôle moteur et novateur, parce qu'ils vont faire de plus en plus des missions d'appui au sol. D'appui de l'infanterie au sol, c'est-à-dire ce qu'on appelle en aviation du strafing, hein, des prises à partie d'objectifs au sol. Et ça, c'est effectivement une nouveauté. Alors, c'est monnaie courante depuis dans les conflits que l'on a connus, mais c'est une vraie nouveauté de la Grande Guerre. Et ça brise effectivement certaines offensives, notamment du Friedensturm de juillet 1915, où les Allemands sont cloués au sol par la division aérienne.
Dans ce type d'offensive, d'opération, donc d'appui au sol pour briser l'offensive allemande en 18, combien d'avions sont engagés?
Jusqu'à 400 appareils à la fois.
Important, c'est très important.
Il y a notamment des engagements importants aussi en faveur des Américains lors de la reprise du saillant de Saint-Mihiel.
Oui.
Et là, c'est une opération interarmée, puisqu'il y a des avions français, mais aussi britanniques et même italiens, qui aident les Américains qui sont au sol pour reprendre le saillant de Saint-Mihiel.
Donc c'est du mitraillage, c'est du bombardement.
Ce sont les deux, observation,
la combinaison,
mitraillage et bombardement.
Donc ça, c'est la première fois que...
Alors, massivement, oui.
C'est la première fois.
Saint-Mihiel, oui. C'est septembre 18, mais avant même cela, la division aérienne de Duval est mise en place à partir de... intervient opérationnellement, lourdement, à partir de juillet 18, hein, dans la contre-offensive Mangin de juillet 18.
Les Allemands ont pratiqué ça?
Bien sûr.
Ce même type d'opération, de la même manière, massive.
Oui, le bombardement lourd, ils en sont même les promoteurs. Alors, avec des Zeppelins dans un premier temps, et puis avec des appareils qu'on appelle les Gotha, qui vont bombarder Paris, effectivement, en 1918.
Mais sur l'utilisation tactique, comme cela a été fait en 18, saillant de Saint-Mihiel pour... appuyer les troupes américaines ou pour briser les offensives allemandes en utilisant à peu près plusieurs centaines d'avions. Les Allemands l'ont-ils pratiqué? C'est vraiment une innovation tactique française.
Alors, les plusieurs centaines d'avions, ils n'en ont plus guère les moyens, effectivement, à l'été 1918.
Ils n'ont plus les moyens, oui.
Parce que le blocus allié, et surtout britannique, les prive de quantité de matériaux de base, hein, notamment les métaux rares. Mais effectivement, en termes d'opération elle-même, oui, ils pratiquent pas aussi massivement, mais ils pratiquent.
Parce que vous écoutez François Gaucher, c'est un peu. On est quand même surpris par la grande différence de tactique et d'imagination, de créativité mise en place par l'armée française et ses alliés en 1918, par exemple, si on la compare à l'attitude en 1939. On a l'impression qu'en 1918, l'armée française
et ses alliés innovent énormément.
Bien sûr. Et alors, en 1939, on a l'impression d'être complètement suiveur.
Alors, c'est peut-être caricatural. Un peu caricatural, mais on pourrait en reparler longuement, parce que l'histoire de l'armée française dans l'entre-deux-guerres est complexe. L'armée française estime avoir mis au point toutes les techniques en 1918, toutes les techniques permettant de l'emporter sur des conflits à front fixe. Donc, si vous voulez, va s'en tenir à des recettes éprouvées, si je puis dire, et va surtout laisser vieillir son appareil militaire. Mmh. On a des stocks trop importants. Et puis, on cherche constamment l'idéal en termes de matériel, et l'idéal n'existe pas. Donc, ça veut dire toute une politique de prototypes trop nombreux dans l'entre-deux-guerres, parce qu'on cherche le char idéal. Il y a des rivalités corporatives. Faut-il un char lent et lourd ou un char léger et rapide? Les cavaliers n'ont pas les mêmes visions, n'ont pas les mêmes regards que les fantassins, etc. Tout ça, c'est compliqué. On pourra peut-être en reparler.
Oui, oui, parfaitement, oui. Je vous propose d'aborder la révolution économique. C'est-à-dire comment la France et ses alliés, d'ailleurs, ont mené la guerre économique pour justement surclasser en la matière l'Allemagne. Pour quelle raison d'ailleurs? Puisque en 18, eh bien, ce sont les chars, les avions, l'artillerie lourde, hein, les tubes, le nombre de tubes, qui sont les conséquences de toute la mise en place d'une organisation industrielle que la France n'avait pas en 1914. Et la France l'Allemagne en 14 était plus puissante que la France sur le plan économique.
Alors l'Allemagne en 1913 est déjà la première puissance productrice mondiale. C'est la première puissance manufacturière. Ça n'est pas la première puissance économique, hein, qui sont désormais les États-Unis, qui ont devancé la Grande-Bretagne, mais c'est déjà la première puissance manufacturière. Le problème des Allemands, c'est bien entendu le blocus. C'est-à-dire que leur circuit traditionnel d'approvisionnement, en matières premières notamment, caoutchouc, métaux rares, comme je le disais, etc., toute matière essentielle, hein, pétrole bien évidemment, ces approvisionnements tendent à se raréfier et à se faire de plus en plus rares, d'où des politiques d'ersatz, des politiques de remplacement de produits qui vont très loin, hein. Par exemple du textile, des textiles faits à partir d'orties ou de choses comme ça, d'où aussi une politique de prédation sur les pays envahis, comme la Belgique et le nord de la France, qui sont pillés systématiquement. Et effectivement, malgré cela, eh bien, des manques de plus en plus criants apparaissent. Ce qui fait que ça interfère avec la stratégie. Parce qu'on, par exemple, on dit souvent que les Allemands ont raté la révolution du char, qu'ils ont négligé les chars en 1917-18. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'ils n'ont pas suffisamment de métaux spéciaux pour développer et des chars et des sous-marins. Et ils ont pensé, à tort ou à raison...
Ils ont développé les sous-marins.
Et ils ont pensé que l'arme offensive essentielle pour eux, c'était le sous-marin, parce que ça permettrait d'asphyxier économiquement la Grande-Bretagne. Nous, historiens, on sait que ça n'a pas fonctionné comme ça, mais c'est un choix stratégique. Hein. Ce n'est pas un oubli de fabriquer des chars. Alors... L'économie française est une économie, en 1913, c'est une économie libérale, parce qu'on sait faire que ça à l'époque. L'État est, si vous voulez, infiniment moins présent qu'il ne l'est, bien entendu, aujourd'hui, puisque, justement, c'est la Grande Guerre qui a fait le début d'une révolution dans ce registre. Mais au bout de quelques semaines de guerre, on s'aperçoit que les arsenaux nationaux qui existent depuis le XVIIe siècle, hein, notamment, et qui ont été développés au XIXe, eh bien, ne suffisent pas du tout pour fabriquer les denrées militaires nécessaires, notamment les munitions, les obus, etc. D'où, dès septembre 14, des réunions entre le ministère de la guerre et les industriels pour commencer à répartir les productions de guerre au secteur privé. Et ça, c'est une vraie révolution. Parce que, alors que 70% des productions de guerre étaient faites par les arsenaux en 1914, et bien dès 1915, en un an, au contraire, 70% vont être faits par des firmes privées qui se reconvertissent, qui se reconvertissent dans le tournage d'obus, dans la fabrication de tel ou tel. On a par exemple à Limoges les spécialistes de la faïencerie, de la porcelaine, qui se reconvertissent en isolant électrique pour l'armée, etc. Des choses comme ça. Et il y a des hommes de talent pour encadrer cette mutation spectaculaire. Plusieurs hommes qui jouent un rôle mais considérable. Là encore, ils ne sont pas assez connus aux yeux du grand public, oui. Parce que ce sont eux aussi qui ont gagné la guerre, autant que les militaires.
Lesquels voudriez-vous citer?
C'est Albert Thomas, bien évidemment.
Qui ça, pardon?
Albert Thomas, socialiste, SFIO. Donc la première fois qu'on a un ministre important socialiste, qui va devenir donc sous-secrétaire d'État à l'artillerie, puis ensuite à la production de guerre. Et Albert Thomas est un théoricien de l'État qui a beaucoup réfléchi au rôle de l'État avant même la Grande Guerre, qui connaît très bien les syndicats, qui est socialiste, donc qui obtient une manière d'agrément des syndicats, qui va développer considérablement les usines d'armement, mais les usines d'armement du secteur privé. En échange d'aménagement des conditions de travail, d'une véritable législation sociale du travail pendant la guerre. Thomas quitte le gouvernement en 1917, donc lorsque l'Union sacrée explose, mais a joué un rôle de 1915 à 1917 tout à fait énorme.
Quel genre de concession sociale, par exemple,
contrepartie? Par exemple, alors, sur les horaires de travail, qui sont encore énormes à l'époque, hein, il va limiter à 10 heures par jour, vous vous rendez compte, le travail. Il va créer une législation spécifique pour les femmes, notamment, avec interdiction du travail de nuit, théoriquement, avec salle de repos pour les femmes enceintes, etc. Enfin, toute une série de mesures très, très concrètes, hein, qui vont permettre effectivement le développement de l'économie de guerre. Le deuxième personnage, très, très important, c'est Louis Loucheur.
Oui.
Louis Loucheur, qui va être longtemps, enfin, avec le retour de Georges Clemenceau au pouvoir en novembre 17, c'est un des principaux conseillers de Clemenceau. Et Louis Loucheur, lui aussi théoricien de l'État, parle de production totale. Il est le premier en France à effectivement parler d'une organisation économique totale de la Grande Guerre, pendant la Grande Guerre, pardon. Et puis le troisième personnage, lui aussi trop peu connu, c'est Eugène Clémentel. Eugène Clémentel va jouer un rôle considérable. Il parle, pour sa part, lui, de libéralisme organisé. C'est-à-dire qu'il a compris que le libéralisme pur et dur à la Adam Smith devait être modulé par les besoins de la guerre. Ça signifie concrètement une présence de plus en plus lourde, je dirais, de l'État. C'est l'État qui passe commande. C'est l'État qui organise la production. C'est l'État qui gère la main-d'œuvre de plus en plus. Donc vous avez non pas une étatisation de la guerre, hein, n'allons pas jusque-là, ce ne sont pas les soviets, mais une économie de plus en plus administrée. Voilà, grâce à des hommes comme Thomas, comme Loucheur ou comme Clémentel. Mm-hmm. Et ce sont des personnages vraiment clés. Hein, Clémentel finissant par cumuler différents postes très très importants, comme ministre du ravitaillement notamment.
Alors ça pose inévitablement le financement de cette économie de guerre.
Ouais.
Comment la guerre et cette économie est-elle financée?
Alors, on a aussi une autre révolution discrète, mais une vraie révolution quand même. C'est ce que j'appellerais la révolution du drainage de l'épargne. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais on va essayer de rendre cela le plus simple possible. Avant la Grande Guerre, seule la bourgeoisie épargne. Et seule la bourgeoisie place ses fonds dans les banques ou des choses comme ça. À une époque où l'inflation n'existe pas, le paysan riche préfère garder ses louis d'or entre deux matelas ou dans la commode normande. Et là, on va courtiser littéralement l'épargne privée et les banquiers vont aller chercher, grâce à une procédure d'État, hein, les banquiers vont aller chercher des épargnants qui n'avaient pas l'habitude d'épargner. Et on va ramasser comme ça presque 36 milliards de francs or dans l'épargne des Français. On va lancer aussi 4 emprunts à 5% par an, 4 emprunts sur la durée de la guerre, c'est-à-dire en gros un emprunt par an, pardon. 5% de rétribution, c'est considérable, hein, pour l'époque. Donc ça attire aussi, même si l'inflation vient grignoter un petit peu tout cela. Et puis, l'impôt. Alors l'impôt très très peu sollicité en France, contrairement à la Grande-Bretagne ou à l'Allemagne. Mais pour la première fois, on voit apparaître et voter en 1914. C'était une idée des radicaux socialistes depuis 1898. Un impôt sur le revenu, pour la première fois, qui est créé en 1914, qui est mis en œuvre en 1915, donc qui va rapporter seulement en 1916. Hein, mais voilà, il y a pour la première fois de notre histoire un impôt sur le revenu, et vous comprenez que là aussi, c'est une tendance qui ne s'est jamais départie depuis. Et puis, l'inflation. L'inflation est un moyen de financer aussi la guerre, puisque on suspend la convertibilité or du franc, et donc la planche à billets tourne. L'inflation française va être assez importante, de l'ordre de 20-24%. Elle est moins importante qu'en Italie, mais elle est plus importante qu'en Angleterre, par exemple. Et puis, il reste comme dernier moyen de financement l'emprunt. Alors l'emprunt, soit sur des pays étrangers, alors on cite souvent ce qu'on devait aux États-Unis, oui, mais aussi les emprunts sont toujours des emprunts croisés, c'est-à-dire qu'on doit de l'argent à la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne nous doit de l'argent aussi, par exemple. Ce qui compte le plus dans ces emprunts, ce sont les emprunts que je viens de citer, c'est-à-dire ce sont les emprunts nationaux. C'est-à-dire que c'est plus à l'égard des Français que l'État français s'endette qu'à l'égard de l'étranger.
Voilà. On sait jusqu'à quel point ils s'endettent. De nos jours, on sait que la France est endettée à l'équivalent de 115% de son produit intérieur brut. Et à quel niveau est-ce à l'époque?
L'endettement est assez considérable, mais proportionnellement moins qu'aujourd'hui.
Moins qu'aujourd'hui, donc quand même. Donc on mène une guerre qui dure 4 ans, qui est une guerre épouvantable, qui coûte énormément en hommes, en matériel, une véritable révolution militaire, industrielle, une révolution d'organisation, une révolution politique. Tout ce que vous décrivez dans ce chapitre passionnant, François Cochet, consacré à la Grande Guerre de cette nouvelle histoire de France publiée aux éditions Passé Composé, la France mène victorieusement un combat terrible pendant 4 ans et a réussi à être moins endettée que de nos jours. C'est quand même... La France était grande à l'époque, elle méritait bien ce nom de grande nation.
Il n'y a surtout pas le modèle social français qui est très coûteux.
Oui. Oui, bien sûr, il y a des raisons naturellement à cela, mais ce qui est notable aussi quand même, vous l'évoquez hein, notamment à travers l'évolution politique, c'est que la cohésion nationale demeure. Pendant 4 ans, alors bien sûr,
à peu près. Il y a des anicroches, hein, quand même.
C'est ça, il y a les mutineries, il y a un certain nombre de choses.
Alors les mutineries, c'est encore autre chose, je préfère parler moi de refus d'obéissance que de mutinerie. Mais sur le front intérieur, il y a des contestations de la guerre. Hein. Les milieux anarchistes sont peu nombreux, mais sont... très contestataires, les milieux pacifistes ont tendance à augmenter sur la durée de la guerre.
Oui, mais tout ça est quand même très, très contenu.
Avec rupture de l'Union sacrée, en 1917 officiellement, mais en fait, bien avant déjà.
Oui. Mais l'Union sacrée est une réalité, tout de même.
Alors l'Union sacrée est une réalité...
Ou c'est quelque chose d'un peu...
Oui, c'est une réalité à la fois médiatique et sur le terrain.
Oui.
Mais elle n'empêche pas des bagarres sévères. Dans plusieurs régions de France, et je prépare un ouvrage avec Erwan Le Gall sur ce sujet, on va essayer de montrer cela. Par exemple, la vieille rivalité entre cléricaux et anticléricaux ne disparaît pas. Et je pense à un exemple sur la ville de Limoges, Limoges, ville rouge, Dieu sait, puisque c'est en 1895 à Limoges qu'est créée la CGT, première ville socialiste de France, eh bien, il y a des bagarres dantesques entre l'évêque de Limoges et les socialistes limougeaux qui essaient, et les uns et les autres, de capter l'attention notamment des blessés, qui sont nombreux à Limoges parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux de l'arrière sur la ville.
Mais non, oui, dans ce chapitre, François Cochet, vous posez la question à la fin de l'épreuve. Une importante question se pose. Qui de la République ou de la nation a gagné la guerre. Et ce qui est impressionnant quand même dans cette Première Guerre mondiale, c'est que la France est une république, avec avant 14, avec toutes ces dissensions, on les connaît. Hein, entre vous avez évoqué les cléricaux, les anticléricaux, etc. La droite nationaliste n'a pas participé aussi au gouvernement du non-national pendant ces quatre années. Et en face d'elle, il y a l'Allemagne, qui est une dictature. Hein, surtout à partir de 17, la dictature militaire.
Oui, avec le pouvoir militaire est beaucoup plus puissant qu'effectivement qu'en France.
Voilà, c'est en tout cas, c'est un régime très autoritaire. Oui, ce n'est pas une démocratie d'un but comme la France.
Ça l'était déjà pas tout à fait en 1913. Hein. Bon, le Reichstag n'avait pas tous les pouvoirs qu'avait le Parlement français.
Et c'est la France qui gagne la guerre. D'où votre question, d'ailleurs. Quand même, c'est la République, avec ce... Vous dites que l'instabilité gouvernementale demeure, puisque il y a un certain nombre de gouvernements qui se succèdent, et malgré tout, c'est la France qui remporte cette guerre.
C'est
la question que vous posez, et peut-être pouvez-vous y répondre.
C'est la question que
République
pose,
ou nation
C'est la question que pose Charles Maurras en 1918.
Hein,
qui a gagné la guerre?
Oui.
Est-ce un régime politique? Est-ce la République qui a gagné la guerre? Ou est-ce la nation française qui a gagné la guerre? Je vais prendre un exemple personnalisé. Le 25 septembre 1915, meurt le colonel Desgrais-du-Loup. Dans les premiers jours, les premières minutes même de l'offensive de Champagne du 25 septembre. Desgrais-du-Loup est légitimiste. Est-ce que vous croyez qu'il meurt pour la République? Non, il meurt pour la nation française. Cette nation française qui a préexisté à la République. Puisque les historiens sérieux estiment que la nation française, on peut commencer à en parler dès la fin de la guerre de Cent Ans, vers 15e, fin 15e, on peut parler de nation française. Donc voilà, la question se repose pour la gauche qui est au pouvoir pendant la Grande Guerre, hein, je le rappelle, puisque les élections législatives d'avril-mai 1914 ont été marquées par une poussée à gauche. Et donc, c'est la gauche qui est au pouvoir pendant la Grande Guerre, pour cette gauche radicale socialiste, il ne fait aucun doute que c'est la République qui a gagné la guerre. Pour d'autres courants de pensée, c'est moins évident, et on parlera effectivement plutôt de nation. Voilà. Donc la réponse est pluriforme.
Multiple. Vous évoquez les Desgrais-du-Loup, c'est une famille de tradition militaire. Il y a beaucoup de militaires.
Absolument. Oui.
Toujours de nos jours.
Et dans la presse également, parce que.
Dans la presse aussi.
Bien sûr. Bah, West France, l'actuelle West France, c'est la famille Desgrais-du-Loup également.
Une dernière question avant que nous fassions une petite pause. Écoutez, un message de la radio. Nous ne ferons pas de pause musicale parce qu'il y a encore d'autres sujets que je voudrais bien aborder avec vous, notamment ces éclairages très intéressants que vous apportez dans ce chapitre. Hein. Il y a deux éclairages que j'aimerais bien que nous évoquions ensemble. Si vous le voulez bien, François Cochet, les taxis de la Marne, avec cette question qui se pose, qui a gagné l'offensive de la Marne, est-ce que c'est Joffre ou est-ce que c'est Gallieni? Des questions très candides, mais que nous nous posons tous à l'issue de cet éclairage taxi de la Marne. Et puis, bien sûr, Verdun, vous avez un éclairage très intéressant sur Verdun. Et puis, le corollaire de Verdun, c'est comment visiter Verdun. Ça, j'aimerais bien que nous en parlions.
D'accord.
Dernière question avant la petite pause message radio. Les soldats, ceux qui sont donc mobilisés, ils ont une solde?
Bien sûr.
C'est important, ça
n'a
pas... Quelle vie matérielle, hein,
c'est à peu près 0,25 francs par jour, donc, pour un simple soldat.
Ça correspondrait à quoi de nos jours, en termes de pouvoir d'achat?
Très, très difficile, quelques euros par jour.
C'est rien du tout.
Non, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Pour un simple soldat, c'est rien du tout. Les soldes augmentent bien entendu avec les grades. Une armée qui est plus, je dirais, inégalitaire que de nos jours, puisque l'écart de soldes est plus important qu'aujourd'hui. Hein, mais non, par exemple, lorsque les Américains arrivent massivement à partir de janvier 18, les soldes d'un private, d'un simple soldat américain, sont incommensurables par rapport à la solde d'un soldat français, ce qui fait qu'ils font monter les prix hein, dans toutes les villes où ils s'installent, Saint-Nazaire, Nantes, Le Havre, etc. Les soldes américaines font monter les prix.
Mais comment font les familles pour vivre?
Alors,
Parce que les familles sont mobilisées.
Les épouses ou les compagnes, il n'y a pas besoin d'être marié, reçoivent une allocation militaire.
D'accord.
Qui est, elle, non négligeable.
D'accord, donc il faut voir l'ensemble, en fait. Hein,
voilà, c'est ça. Oui. Qui est de 1,25 francs par jour, plus 0,75 francs par enfant. Donc, ça ne permet pas de vivre, sauf dans certaines régions agricoles très pauvres, mais c'est quand même un bon complément pour les épouses et les compagnes.
D'accord.
Et ce sera réévalué au cours de la guerre. Et bien, ça, c'est extrêmement important parce que on disait tout à l'heure que l'État joue aussi un rôle de plus en plus important dans la régulation sociale de la guerre.
François Cochet, nous faisons cette petite pause message radio et puis nous reprenons sur les taxis de la Marne et sur Verdun, il nous restera 20 minutes à passer en votre compagnie.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons cette conversation avec François Cochet, qui est professeur émérite des universités, spécialiste en effet de la Première Guerre mondiale, spécialiste de l'expérience combattante d'une manière générale 19e et 20e siècle. Nous le recevons à l'occasion de la publication de ce chapitre passionnant qu'il consacre à la Grande Guerre dans la nouvelle Histoire de France publiée aux éditions passées. Composé. François Cochet, je vous propose donc, il y a des éclairages intéressants, vous en avez proposé 4 dans ce chapitre, Taxis de la Marne, Verdun, Clémenceau et Foch. Nous avions déjà parlé un peu de Foch à l'émission précédente. Je vous propose d'évoquer les taxis de la Marne et Verdun. Alors commençons par les taxis de la Marne. Une opération de grande ampleur, écrivez-vous, dans la mémoire collective.
Oui, tout à fait. C'est une opération médiatique, hein, je dirais tout simplement. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, l'affaire, entre guillemets, ne date pas forcément de 1914. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu mobilisation de taxis, mais aussi d'autobus. Hein, parce que Gallieni, en tant que gouverneur militaire de Paris, a mobilisé les taxis parisiens G7, contre rétribution. Hein, tous ces taxis ont été payés.
Mais les compteurs tournaient.
Ah oui, tout à fait.
C'est incroyable, ça.
les compteurs tournaient, oui, c'est ça. Et il a réquisitionné aussi des autobus. Alors, ça, c'est une réalité historique. Deuxième réalité historique, dans effectivement les 6 et 7 septembre, ces taxis et ces autobus permettent d'acheminer à peu près 6000 hommes. 6000 hommes à peine de la 14e brigade de la 7e division d'infanterie mise à disposition du général Monory, qu'on vient de créer une armée pour lui pour qu'il puisse pousser sur le flanc des Allemands. Bon, voilà, donc vous avez 4 à 6000 hommes qui ont été déployés par les taxis et les autobus. L'armée Monory, c'est à peu près 150 000 hommes. Hein. Donc, vous voyez tout de suite le ratio.
Oui.
Ce ne sont pas ces 4000 hommes qui font véritablement la différence.
C'est très symbolique, c'est ça que vous voulez dire.
Ça n'a
pas eu de conséquences tactiques sur le terrain?
Si, mais très, très partiellement. D'autant plus que les hommes, comme les taxis étaient pressés de rentrer à Paris, les hommes ont été déposés un peu n'importe où, ont dû souvent finir la marche à pied.
Hein, avant. Ils sont déposés à quel endroit?
Alors, ils sont déposés sur l'Ourcq, sur Villeroy, sur ces coins-là. Les taxis, effectivement, comme ce sont quand même des coins assez dangereux, les taxis rentrent très très rapidement à Paris. On a des descriptions d'ailleurs des parcours assez épiques parce que les taxis étaient tellement pressés d'arriver sur zone et de déposer leurs 3 soldats, puisqu'en fait, chaque taxi, il y avait le conducteur, Il y avait un soldat à côté du conducteur et deux, voire trois soldats, s'ils étaient très serrés, sur la cabine arrière. Bon, et ils étaient tellement pressés de déposer leur chargement humain qu'ils ont fait une véritable course entre eux. On connaît des anecdotes où sur la route de Nanteuil, le Haut-Ouen notamment, il y avait deux taxis de front, voire parfois trois taxis de front qui se tiraient la bourre, si vous me permettez l'expression, pour pouvoir rentrer le plus rapidement possible. Donc, tactiquement, l'utilité des taxis de la Marne est pas forcément avérée, hein, on va dire, mais médiatiquement, alors là, c'est un succès total, colossal, mais un succès qui rebondit. En gros, il y a 650 taxis au total, hein, qui ont été mobilisés. Donc vous voyez, vous multipliez par 4, oui. Ça vous donne une idée du nombre de soldats qui ont été réellement transportés. Alors, l'affaire rebondit en mai 1916, puisqu'à cette date, Gallieni vient de mourir, le 27 mai. Et il a droit à des obsèques nationales, bien entendu, à l'école militaire, aux Invalides, pardon, pas à l'école militaire. Et oui,
il était gouverneur au moment
il était gouverneur militaire de Paris.
En 1914, il était gouverneur déjà militaire de
Tout
Paris.
À fait,
oui.
Voilà.
C'est lui qui a l'idée. Qu'est-ce qui.
Alors oui, c'est son cabinet qui a l'idée.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelle est la justification tactique? Pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais forcément, Gallieni, les taxis de la Marne, la bataille de la Marne, Joffre. Bah, et derrière, ce qu'on aime beaucoup en France, une polémique.
Bien sûr.
Qui a gagné la bataille de la Marne, c'est Joffre, c'est Gallieni.
Alors justement, tout cela est lié de manière tout à fait serrée, si je puis dire. Il faut quand même se souvenir que Gallieni a été le supérieur de Joffre à Madagascar. Qu'en 1914, il est devenu son subordonné. Que Gallieni supporte assez mal... d'être réduit à une quasi-inactivité, même s'il a fait un gros travail de préparation de la défense de Paris, comme GMP, comme gouverneur militaire de Paris. Mais, effectivement, c'est lui qui a le regard, le premier regard sur l'inflexion de l'armée von Kluck vers le sud-est. Et c'est lui qui, effectivement, ce sont ses services plutôt, qui ont effectivement alerté Joffre sur cette inflexion. Et donc, pour répondre tout de suite à votre question sur qui a gagné la bataille de la Marne...
Oui, parce que, quelle est la genèse un peu de cette affaire? Les taxis, ils sont là pour renforcer le front nord-est de Paris, enfin attaquer le front est de l'armée allemande. Qu'est-ce qui provoque tout ça? Et quel est le lien entre ça et la bataille de la Marne proprement dit, effectivement? Et après, Gallieni-Joffre, quoi.
En gros, Gallieni voit l'inflexion vers le sud-est de l'armée von Kluck. Mais... c'est quand même Joffre qui a le regard d'ensemble. C'est quand même Joffre qui voit que la 2e armée et la 4e armée tiennent sur l'Argonne pour la 2e armée et Vitry-le-François pour la 4e. C'est quand même Joffre qui, du coup, comme la 4e armée tient sur Vitry-le-François, peut acheminer des renforts sur le centre, sur Foch, qui est malmené dans les marais de Saint-Gon, et qui, surtout, peut amener des renforts à Monoury, dont on crée l'armée pour prendre de flanc l'armée von Kluck. Et donc, concrètement, même si Gallieni a le regard qu'il faut au bon moment, c'est quand même Joffre qui coordonne,
François,
qui est général en chef.
Pardonnez-moi, Gallieni a le bon regard au bon moment, mais il voit quoi?
Et il voit l'inflexion. Il voit l'inflexion
de l'armée. Quelle est la conséquence de l'inflexion allemande? Pourquoi l'inflexion allemande et quelle est la conséquence?
C'est capital. L'inflexion de von Kluck, c'est sans doute une réaction d'ego de la part de von Kluck. Von Kluck a comme instruction de contourner Paris par l'ouest. Or, comme les armées allemandes sont commandées par des princes, voire même par des princes impériaux, eh bien, ils supportent mal les commandements du grand quartier général allemand. Et donc, de sa propre autorité, von Kluck infléchit la marche de son armée vers le sud-est, créant un trou entre lui
et l'armée française. Il infléchit dans le sud-est. Pourquoi ? Est-ce qu'il veut prendre Paris ?
Parce qu'il veut marcher sur Paris, contrairement aux ordres qu'il avait reçus.
Exactement. Voilà. Oui.
Donc, il expose le flanc de son armée, et ça, Gallieni le voit.
Mais ce que voit Gallieni, alors il y a des reconnaissances aériennes, j'imagine, cavalières.
Reconnaissance de cavalier et reconnaissance aérienne. Il voit l'inflexion.
L'inflexion et le flanc est.
Voilà, et le flanc est dégarni.
Et cette armée de von Kluck qui montre son flanc est dégarni.
Voilà.
Non protégé, en quelque sorte.
Voilà, absolument.
C'est ce qu'il voit. On était à combien de kilomètres de Paris, là,
On est à Meaux, donc on est.
Ah oui, donc c'est ça, juste à côté. Et Gallieni, que fait-il à ce moment-là ?
Il rencontre
à Joffre.
Il rencontre.
Et Joffre lui dit, et c'est là où Joffre et donc les mouvements.
Ah bah Joffre,
la quatrième armée, la deuxième armée, je renforce.
Voilà.
C'est ça.
Et donc, Joffre tient compte, effectivement, de l'avis de Gallieni, mais c'est à mon sens lui qui coordonne. Donc il y a un vainqueur, c'est Joffre. C'est plutôt Joffre à mes yeux.
Joffre est vainqueur.
C'est toujours le général en chef, quand même, qui est responsable.
Joffre est le vainqueur, mais Gallieni se montre un bon chef à son niveau.
Oui, tout à fait.
Il observe, il rencontre et il monte la contre-offensive sur le flanc est. C'est ça.
Non, c'est pas Gallieni. Il renforce.
De son côté.
Mais il renforce sur ordre de
Joffre. Ah, donc oui. les taxis de la Marne, opération très symbolique sera exploitée par la suite médiatiquement. Les taxis de la Marne, c'est la suite de l'ordre de Joffre
passer
à l'attaque.
Tout à fait.
C'est ça.
Et si vous voulez, il faut revenir là au décès de Gallieni le 27 mai 1916, parce que c'est dans la foulée que le général Clergerie, qui avait servi le 9 septembre 14 sous les ordres de Gallieni, c'est Clergerie qui va écrire toute la mythologie des taxis de la Marne. Donc, si la mythologie véritablement achevée, le récit mythique achevé, c'est Clergerie et c'est 1916. Près de deux ans après les événements, et surtout dans le contexte, alors bien entendu de la mort de Gallieni, mais surtout dans le contexte de Verdun. On est en mai 1916, on est en pleine bataille de Verdun. Et Verdun, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la voie sacrée. Baptisé ainsi par Barrès. Donc, ce que veut très clairement Clergerie en mai 1916, c'est rendre hommage à son patron, Gallieni, son patron de 1914, en disant, Gallieni avait fait déjà l'union.
Une première voie sacrée.
La voie sacrée, elle
c'est
est là.
C'est celle des taxis. Hein.
Et ce sont les taxis de la Marne. Et là, on est véritablement dans une construction. Mythologique, je dirais, des taxis de la Marne. Et à partir de là, le mythe prend son envol et ne se démentira jamais.
Alors, François Cochet, il ne reste que 8 minutes, mais on va passer à votre compagnie pour le dernier éclairage que j'aimerais qu'on aborde, parce que déjà, nous ne l'avions pas fait lors de la première émission. C'est l'éclairage sur Verdun. Alors, et notamment, cette question, comment bien visiter Verdun ? Parce que je pense que ça vaut la peine. Comment bien visiter Verdun ? Surtout que je rappelle quand même que vous avez une fonction... une responsabilité importante à Verdun, puisque vous êtes président du conseil d'orientation scientifique du mémorial de Verdun. Donc c'est vraiment, entre autres, parmi tous ces sujets, un grand sujet pour vous. Et je lis simplement quelques lignes de ce que vous écrivez dans ce chapitre « Grande guerre de la nouvelle histoire de France ». Vous dites de Verdun que c'est la bataille de tous les superlatifs, gigantesque, la bataille absolue de 300 jours, un condensé de la Grande Guerre et le lieu de l'héroïsme du poilu. Alors, 7 minutes, si vous voulez ajouter quelque chose sur cette bataille proprement dite, et puis nous expliquer comment bien visiter, intelligemment visiter Verdun.
Alors, j'ajouterais héros poilu, le poilu héros, mais héros défensif. Ça, c'est très important.
Oui.
Parce que pour le coup, Verdun, c'est la France qui se défend, quel que soit... savoir si c'est la République qui se défend ou si c'est la nation qui se défend, mais en tout cas, c'est la France. Et cette notion de défensive est capitale, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les poilus vont tenir.
Ils avaient conscience de ça ?
Ah oui, tout à fait. Ah oui, Verdun, c'est, j'ai appelé ça, c'est une euphémisation du sol national. C'est le jardin. C'est le jardin familial que l'on défend. Oui, tout à fait.
Plus que les autres batailles.
Ah oui, parce que à Verdun, ce sont les Allemands qui attaquent.
Oui.
Non, c'est capital, ça. Alors, comment visiter Verdun ? Verdun a la chance, contrairement à la bataille de la Somme, contrairement à la bataille du chemin des Dames, le front de Verdun, comme je le disais tout à l'heure, est assez réduit. C'est-à-dire que vous avez un condensé sur une quinzaine de kilomètres. En gros, de la rive droite, de la côte 304 ou du Mortomme, jusqu'au fort de Vaux. Hein. Et donc, c'est un champ de bataille ramassé, premier avantage. Deuxième avantage, il est resté quasiment dans son état de 1918. Il a été boisé, hein, bien entendu, donc il ne faut pas imaginer en 1916 qu'on se bat au milieu des bois, pas ça du tout. C'est que les terres étaient trop pauvres, contrairement à la Somme, où les terres valaient cher, parce que c'était des terres agricoles profondes. Verdun, c'est avant la guerre, c'est de l'herbage, hein, c'est de l'élevage herbagé. Et donc les terres sont de médiocre qualité, elles sont pas réhabilitées. Après la guerre, et puis il y a une telle concentration d'objets dangereux, de restes de guerre de toutes sortes, qu'on décide de ne pas réhabiliter, donc on boise. L'ONF décide de boiser. Mais je veux dire, le réseau de trous d'obus, de boyaux, de tranchées est là. On le voit très bien aujourd'hui, puisqu'il y a un petit insecte qui s'appelle le scolyte, qui est en train de bouffer plein d'arbres, rendant inutilisables ces arbres, et l'ONF abat d'un très grand nombre d'arbres, et on voit effectivement le sol constellé de millions de trous d'obus apparaître. Alors, je crois que la première idée pour bien visiter Verdun, bah, c'est d'aller sur le champ de bataille et de s'en imprégner. On peut y aller à plein d'endroits, mais par exemple, l'endroit que je trouve spectaculaire, ce sont les 800 mètres ou le kilomètre qui va entre le mémorial actuel de Fleury-Dauvent-Douaumont jusqu'à l'ossuaire de Douaumont. Parce que là, vous voyez le système de pente, notamment, et vous voyez combien c'est pentu. Vous voyez combien l'effort des fantassins de part et d'autre a été énorme. Parce que ce n'est pas un terrain plat, hein, ce n'est pas la Somme pour le coup. Là. Et ça, cette imprégnation du territoire est à mon avis déterminante à suivre. Ensuite, il faut aller au mémorial. Ce mémorial a été rénové depuis 2016. Nous l'avons réouvert en 2016 avec une muséographie totalement rénovée, totalement différente, due à Edith Medrano de Desrousseaux qui a fait un boulot énorme. Et là, l'explicitation du champ de bataille est considérable. On a créé récemment, au dernier étage du mémorial, une station de casque 3D qui permet d'avoir un regard sur le champ de bataille de l'époque en 3D. Voilà, il faut passer du temps à ce mémorial. C'est ce que j'appelle, moi, le portail d'entrée de la bataille sur le champ de bataille. Après, vous pouvez aller au fort de Vaux, vous pouvez aller au fort de Douaumont, bien évidemment. Mais compter au moins 2 heures pour visiter le mémorial, il le mérite. Le travail a été considérablement bien fait en 2016. En termes de guide papier, il y a un guide qui est assez ancien, mais que j'aime beaucoup parce qu'il est très complet. C'est celui qu'avait fait le général Alain Bernède, alors en 2006, mais on doit toujours pouvoir le trouver, puisque ça s'appelle « Guide de Verdun et du front de Lorraine ». C'est très complet et ça décrit très très bien les éléments du champ de bataille. Et puis je terminerai avec un homme. Parce que nous avons la chance à Verdun d'avoir un enseignant détaché en permanence au mémorial qui s'appelle Nicolas Zubac. Et Nicolas Zubac fait des sorties terrain. Nicolas connaît le terrain comme sa poche, mètre carré par mètre carré. Et il fait des sorties terrain qui ont toujours un grand succès. Il emmène des groupes sur tel ou tel endroit et il fait des commentaires tout à fait précis. Je vous dis, au mètre carré près, il connaît bien son sujet et c'est une personne ressource absolument essentielle, vraiment.
Ça, on peut le contacter via Internet.
Absolument, via le mémorial, tout à fait. Ouais.
Il fait des visites, je sais pas, une journée sur le champ de bataille, par exemple.
Il y a un programme de visite annuel qui est déterminé. Je vous mettrai en relation avec Nicolas Barrel, directeur du mémorial, mais c'est tout à fait prévu.
Ouais. C'est ce qui est finalement peut-être de plus,
ah oui, c'est,
de plus sensé, c'est de parce plus que sensé, lui effectivement plus, se remettre en valeur.
Parlant.
Plutôt que de, le plus parlant en effet. Ouais. De,
quel est, nous faisons un effort aussi sur les familles, parce qu'on oui. essaie de privilégier la visite des familles, notamment des jeunes. Et ce que je voudrais, moi, c'est créer un fichier spécifique des morts pour la France sur le site de Verdun. Mmh. Et voilà, on y travaille.
François Cochet, nous arrivons au terme de cette émission, de ces deux émissions consacrées à ce superbe chapitre que vous écrivez. C'est une performance parce qu'en quelques pages, hein, vous résumez, les auditeurs ont pu s'en rendre compte à vous écouter pendant ces trois heures d'émission. Vous résumez superbement les caractéristiques principales de cette grande guerre. Je poserai une dernière question, une toute petite minute pour y répondre. Le fait ou la personne qui vous touche le plus dans cette grande guerre?
Oh. Je ne donnerai pas de réponse parce que chacun des participants mériterait d'être
oui.
évoqué. Je veux dire, les 1 500 000 morts pour la France mériteraient chacun leur titre d'être évoqué. Je crois surtout que ce sont des catégories de Français qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour leur sol national. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. François Cochet est venu témoigner de cette grande guerre en ce studio à Radio Courtoisie. Nous vous recevrons à nouveau avec très grand plaisir.
Merci.
À bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises dirigé par Thierry Delcourt, émission préenregistrée le 10 juin 2026, diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 30 août de 18h à 19h30 et réalisée par Franck et par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.